Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 2 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Jean-Roger Bion. On commence par les titres.
Des inspecteurs de l'enseignement décapités dans le Kasaï central en République démocratique du Congo.
Au Burkina, le 1er mai a été l'occasion pour les syndicats de dénoncer l'impunité pour les auteurs de crimes de sang ou économiques sous l'ancien régime.
Au Gabon, près de 200 syndicalistes dispersés hier à Libreville par les forces de l'ordre lors d'une manifestation dite interdite.
En Égypte, 3 policiers tués et 5 autres blessés dans une attaque contre un convoi de la police.
Le président Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer le Nord-Coréen Kim Jong-un si les conditions étaient réunies.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, 5 inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire ont été décapités par des miliciens présumés de Kamuina Nsapu à environ 140 km de Kananga dans le Kasaï central. Selon l'agence APA, ces meurtres ont eu lieu dimanche dernier dans le village de Kafuba, territoire de Kazumba. Les inspecteurs convoyaient des malles contenant les sujets de dissertation de l'examen d'État 2017 vers le centre d'examen de cette épreuve prévue ce mardi 2 mai. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, écoutons Jean-René Chimanga, le président de la société civile locale, qui confirme.
Nous avons eu des informations faisant état de la décapitation des 5 inspecteurs, un inspecteur qui a pu fuir par les miliciens de Kamuina Nsapu, comme ils se font appeler ainsi, dans le secteur de Kafuba, territoire de Kazumba. Donc, cet inspecteur s'est rendu vers le centre qui était installé à Boulungu, toujours dans le territoire de Kazumba. Ils ont été décapités par ces rebelles, c'est l'information que nous avons eue. Et dans l'entretemps, le gouvernement a pris des dispositions pour pouvoir descendre sur les lieux afin de les inquiéter. Parce qu'il y a encore menace, selon les informations que je vous envoyais par nos points Foucault, ils veulent brûler la DIP qui avait amené les examens d'État. Pour rappel, concernant les inspecteurs qui étaient décapités, on a même brûlé les marques qui contenaient les examens de dissertation.
Au micro de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa, c'était Jean-René Chimanga, le président de la société civile locale au Kasaï central.
Au Burkina, à l'occasion hier de la fête du 1er mai, les syndicats ont dénoncé à Ouagadougou une impunité pour les auteurs de crimes de sang ou économiques sous l'ancien régime, alors que s'ouvre jeudi le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Lionel Gahima.
La déception des populations touche à l'impunité dont continuent à bénéficier les auteurs de crimes de sang et de crimes économiques, a déclaré le président des centrales syndicales Georges Yamba Ouédraogo. Les prédateurs et autres pilleurs de richesses de notre peuple, les auteurs et commanditaires de crimes, y compris ceux commis pendant l'insurrection et la résistance au putsch, cela coule douce tant au pays qu'à l'étranger, a-t-il déploré. En octobre dernier, le Parlement a adopté un projet de loi visant à reprendre plus de 105 000 parcelles illégalement attribuées à des dignitaires de l'ancien régime du président déchu Blaise Compaoré. Cette loi n'a pas toutefois encore été mise en application. Ouvert jeudi, le procès du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré, poursuivi pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection qui a fait une trentaine de morts et plus de 600 blessés en octobre 2014, a été renvoyé au 4 mai.
Au Gabon, près de 200 syndicalistes ont été dispersés par les forces de l'ordre lors d'une manifestation organisée hier à Libreville à l'occasion du 1er mai. Cette manifestation, qui n'était pas autorisée selon la police, avait été organisée par les militants de Dynamique Unitaire, une coalition de syndicats de plusieurs secteurs d'activité. Le Gabon est toujours en proie à des tensions politiques, économiques et sociales, 7 mois après la réélection contestée du président sortant Ali Bongo Ondimba.
En Égypte, des hommes armés non identifiés ont attaqué hier un convoi de la police près de la principale rocade du Caire. 3 policiers ont été tués et 5 autres blessés, a annoncé le ministère. Personne n'a revendiqué l'attaque pour le moment. L'État égyptien combat une insurrection menée par une branche locale du groupe djihadiste État islamique dans le nord de la province du Sinaï.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump doit s'entretenir téléphoniquement aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine, a annoncé la Maison-Blanche. La présidence américaine n'a pas précisé de quoi les deux dirigeants allaient parler. L'appel est prévu dans l'après-midi, heure de Washington. Donald Trump a déjà conversé par téléphone avec Vladimir Poutine à deux reprises depuis son entrée en fonction.
Le président Trump, par ailleurs, s'est dit prêt à rencontrer Kim Jong-un si les conditions étaient réunies. M. Trump a fait cette déclaration alors que les tensions avec Pyongyang sont au plus haut. Abdurrahman Dia.
Dans un entretien à l'agence Bloomberg, Donald Trump a déclaré que si les conditions étaient réunies pour qu'il le rencontre, il le ferait, ajoutant qu'il serait honoré de le faire. Le président américain a insisté sur les conditions sans préciser lesquelles. Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, s'est employé de son côté à minimiser la portée de ses déclarations, disant qu'une telle rencontre n'était clairement pas envisageable à ce stade. Kim Jong-un n'a jamais rencontré un dirigeant étranger depuis son arrivée au pouvoir à la mort de son père en 2011. Son régime a répondu lundi qu'il pourrait mener à n'importe quel moment un sixième essai nucléaire. Le Pentagone révèle en même temps que le bouclier antimissile THAAD déployé en Corée du Sud est maintenant opérationnel. Le président Trump avait estimé qu'il serait approprié que Séoul paye pour ce système qui a coûté près $1 milliard, une demande que le gouvernement sud-coréen a balayée d'un revers de main.
Et puis, devant l'indignation internationale suscitée par l'invitation du président Trump à son homologue autoritaire des Philippines, Rodrigo Duterte, le porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré que cette invitation, comme celle adressée à d'autres dirigeants est-asiatiques, fait partie d'une stratégie visant à isoler la Corée du Nord. C'est ce qu'a soutenu hier Sean Spicer après les vives réactions enregistrées au Congrès et dans les milieux de défense des droits de l'homme dans le monde.
Toujours aux États-Unis, au moins un mort et plusieurs blessés dans une attaque au couteau hier sur le campus de l'Université du Texas. Selon la police de la ville d'Austin, un étudiant de 21 ans, un certain Kendrick J. White, a été appréhendé, mais rien sur le mobile de ce crime.
Les parlementaires américains devraient voter cette semaine un budget qui dope la défense, comme le réclamait Donald Trump, mais qui bloque d'autres priorités du président et interdit le financement, au moins jusqu'en octobre, du mur à la frontière mexicaine. Ce compromis a été annoncé hier par la majorité républicaine et l'opposition démocrate. Le budget du département d'État et de l'aide à l'étranger est épargné et stable, loin de la réduction de 28% réclamée par le président en mars et inclut même $1 milliard d'aide d'urgence contre la famine dans plusieurs pays d'Afrique, le Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et bien sûr le Yémen.
Au Venezuela, l'opposition a rejeté hier la convocation par le président Nicolas Maduro d'une assemblée constituante. Il ne s'agit là, selon elle, que d'une poursuite du coup d'État mené contre le Parlement qu'elle contrôle depuis les législatives de décembre 2015. C'est une allusion à la décision de la Cour suprême vénézuélienne de s'arroger les pouvoirs du Parlement et de supprimer l'immunité des députés avant de faire machine arrière devant le tollé international suscité par ces mesures. Les manifestations anti-Maduro ont fait 28 morts depuis le 1er avril.
8 personnes, dont 5 militaires et 3 civils, ont été tuées lundi lorsqu'un avion de l'armée colombienne s'est écrasé contre une montagne du centre de la Colombie, ont annoncé les autorités. L'accident, dont la cause n'est pas connue, a eu lieu sur le mont El Manju, situé entre les villes de Facatativa et de Zipacón, a indiqué l'armée de terre dans un communiqué. Les 3 membres de l'équipage et les 5 passagers, parmi lesquels se trouvaient 3 civils, ont tous péri.
La Grèce est parvenue à un accord préliminaire avec ses créanciers qui devrait ouvrir la voie à des discussions sur la réduction de sa dette, a annoncé mardi le ministre grec des Finances. Les discussions entre la Grèce et ses créanciers, Commission européenne, Union européenne et Fonds monétaire international, avait repris le 29 avril. Cet accord doit toutefois être approuvé le 22 mai par une réunion des ministres des Finances de la zone euro. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Lors de la fête du travail au Burkina Faso, les organisations syndicales ont exigé une augmentation des salaires et des pensions de 25% à compter de janvier 2017. Les syndicats demandent également la suppression de la TVA sur les prêts bancaires contractés par les travailleurs et le relèvement du salaire minimum à 50 000 francs CFA. Dans son discours du 1er mai, Alassane Ouattara a annoncé la réduction d'environ 5% du budget de chaque ministère, et ce en raison de la cour des cours du cacao sur le marché mondial. Le chef de l'État ivoirien a précisé que des investissements seront également revus à la baisse, comme la construction d'écoles ou de centres de santé, ou la fourniture en eau potable. Il a ajouté que le programme d'électrification des villages de plus de 500 habitants, qui devait être achevé en 2017, sera reporté à 2018. La Chine parie sur le Maroc. La Banque centrale chinoise a conclu un accord d'échange dirham yuan de 1,5 milliard de dollars. Un fonds d'investissement sino-marocain d'$1 milliard a été lancé par le groupe chinois AIT, Morocco China International et le groupe marocain BMCE, Bank of Africa. Et la société des télécommunications Huawei a installé son nouveau siège pour la région Afrique francophone à Casablanca.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Ce soir, la première demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui, avec ce derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid au stade Santiago Bernabéu, les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la quatrième fois en quatre ans après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015 qui ont tous souri au Real, actuel tenant du titre. Décryptage de ce derby madrilène avec Hervé Penaud du journal L'Équipe.
Quand on parle de ce match, du match des madrilènes comme ça, ça veut dire que ce sera serré. On sait que Simeone, il est très fort pour motiver ses joueurs. L'Atlético n'a plus qu'un seul rendez-vous, c'est celui-là, puisqu'on sait qu'en championnat, bien sûr, il va falloir qu'ils assurent une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine, mais ils n'ont pas d'autre objectif majeur, sinon. Et une saison réussie serait une saison avec un titre au bout. Et donc attention à l'Atlético, ça va être un match serré, ça va être dur, il y aura peu de buts, mais petit avantage au Real.
Demain mercredi, Monaco recevra la Juventus Turin.
Oui, une demi-finale qui offre un somptueux duel de vieux buteurs sud-américains, le Phoenix Radamel Falcao de Monaco contre Gonzalo Higuain, qui veut faire mentir sa réputation de buteur muet dans les gros matchs de Ligue des Champions.
Une info qui a fait hier la une des médias en ligne au Burkina.
Oui, la presse là-bas racontait hier qu'Hervé Kofi Kwaku, le portier actuel de l'ASEC d'Abidjan, et qui avait beaucoup fait parler de lui lors de la CAN 2017 en tant que gardien des étalons, qu'il portera donc les couleurs de Lille en Ligue 1 française à partir de la saison prochaine. D'après nos confrères, l'ASEC d'Abidjan et le club français seraient parvenus à un accord pour un pré-contrat de 5 ans.
Le nouveau sélectionneur de la Tunisie vise le mondial.
Oui, Nabil Maloul s'est fixé lors de sa présentation à la presse hier lundi pour objectif la qualification au Mondial 2018, qui serait la première participation des Aigles de Carthage à une phase finale depuis 2006. Maloul, âgé de 54 ans, qui avait déjà dirigé la sélection durant quelques mois en 2013, a été nommé jeudi à la suite du limogeage du technicien franco-polonais Harry Kasperzak. Idrissa, en NBA, début hier soir des demi-finales.
Conférence Est, les Cleveland Cavaliers, champions en titre, ont battu Toronto 116-105, menant la série 1-0. Conférence Ouest, James Harden et les Houston Rockets ont massacré les San Antonio Spurs 126-99, menant la série 1-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, difficultés dans l'éducation des enfants réfugiés de Centrafrique, installés dans 4 camps du département de la Niapende, région du Logon oriental. Les élèves quittent les salles de classe pour se lancer dans des activités qui leur donneront un peu d'argent pour assurer leur survie. André Kodmadjingar est allé à la rencontre de ces réfugiés. Son reportage.
Il est 11h, heure locale. Nous sommes dans la salle du cours préparatoire moyen de l'école communautaire du camp de Gondje. Dans cet établissement, le taux de fréquentation est en baisse. Le directeur de la dite école, Mandiganoji André, donne les chiffres comparatifs de ses élèves.
L'année passée, j'ai 1230. Cette année, je me retrouve avec 628 élèves, dont 289 garçons et 238 filles. On a 8 bâtiments de 32 salles. Mais on fonctionne avec 13 salles pour le moment.
Le secrétaire général du camp de Gondje, Dumkel Armand, explique les raisons de cette déperdition scolaire.
Selon les parents, c'est la réduction de vivres et puis la suspension de vivres dans d'autres catégories qui a fait que les enfants n'ont pas pu avoir la nourriture nécessaire pour leur survie. Donc eux-mêmes se lancent à la recherche des pailles ou des fagots pour aller vendre afin de subvenir à leurs besoins.
L'assistant en éducation de l'ONG Accra, Serferbe Blaise, confirme le faible taux de fréquentation des élèves dans les écoles de 3 autres camps, notamment Amboko, Dossé et Doholo. Il informe par ailleurs que même les établissements publics de la zone sont touchés.
Le taux est effectivement en baisse contrairement à l'année passée parce que quand on voit déjà le nombre est presque à la moitié de l'année passée et là ce n'est pas seulement les écoles du camp qui sont touchées. Sur les 136 écoles que le département abrite, les 33 écoles publiques sont fermées.
Moïmoune Rum Victor, proviseur du lycée mixte de Timbiri dans le département de la Niapende où fréquentent les élèves réfugiés et autochtones, nous fait le point.
L'année qui était presque blanche, le gouvernement a tout fait pour que l'année ne soit pas blanche. Et quand on a repris en janvier, pour beaucoup d'élèves, c'est que l'année est déjà passée et que ça ne sert absolument à rien de venir perdre le temps ici. Donc il y en a qui reviennent, mais ça ne dépasse même pas la moitié des 700 élèves que nous avons prévus au début. En terminale, je vous dis que je suis avec 7 élèves seulement. C'est presque chaque jour que le nombre des élèves diminue.
En 2016, les statistiques des élèves dans les camps étaient de plus de 5000 élèves régulièrement inscrits. Mais pour l'année en cours, l'effectif global est de 4054 élèves réfugiés centrafricains dans les 4 camps. André Kodmadjingar Goré dans le département de la Niapende pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Sénégal, face à un marché de l'emploi de moins en moins attractif, plusieurs jeunes se lancent dans l'auto-emploi pour échapper au chômage. Zoom sur la start-up ICAN Company ou ICAN Company, lancée par un jeune ingénieur sénégalais de 25 ans. Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagé.
ICAN Company, c'est un rêve d'enfant qui est en train de devenir réalité. Donc, depuis tout le temps, je voulais avoir une compagnie qui est pensée ici en Afrique, qui fait des solutions africaines pour les Africains.
As de l'informatique, Ibrahim Kane a mis en place une start-up pour être un participant actif du développement socio-économique de l'Afrique.
Donc ça a toujours été une passion pour moi. Donc ce qui m'a permis, à chaque fois que je me mets devant des situations compliquées, je me positionne comme solutionneur. Je me demande qu'est-ce que je peux faire avec l'informatique pour améliorer la vie des gens. Et comme ça, je parviens à trouver des solutions, j'essaie de les implémenter et souvent les gens apprécient ce geste. Tout ce que nous faisons, c'est, on le fait par passion et souvent c'est ce qui nous amène à faire vraiment des choses utiles et importantes pour tout le monde.
ICAN Company a déjà développé plusieurs solutions pédagogiques dont l'une des plus importantes est EduManager qui est actuellement utilisée dans plusieurs établissements scolaires.
EduManager, c'est un SAS de gestion scolaire, c'est-à-dire un logiciel accessible un peu partout via Internet. Internet qui permet à des écoles et des instituts de formation de pouvoir administrer leur école de A à Z. Gestion de la scolarité, gestion pédagogique, gestion de la finance, en tout cas tout ce qui est gestion, notre solution leur permet de gérer ça.
La compagnie IKEN apporte aussi un soutien conséquent aux populations et à l'administration territoriale. Serigne Saliou Ndiaye, analyste programmeur, explique les contours de ce projet.
C'est une plateforme qui vise à améliorer la vie quotidienne des citoyens d'une communauté. Par exemple, en leur permettant de pouvoir reporter directement les incidents qui arrivent sur les infrastructures publiques et de pouvoir faire remonter cette information-là directement au niveau des autorités administratives pour qu'ils puissent prendre des contre-mesures. Aussi, Sunyu City leur facilite les procédures administratives telles que la recherche d'un extrait de naissance. Donc, il y a un certain processus qui sera mis en place qui permettra de minimiser en fait le temps d'attente lorsque ces procédures administratives sont enclenchées.
Lancée depuis moins d'un an, la start-up IKEN Company compte à son actif plusieurs projets innovants. Créée par le jeune ingénieur sénégalais Ibrahima Kan, cette structure qui se veut innovante est déjà un exemple dans le milieu universitaire et professionnel sénégalais. Seydina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Pour revenir sur le 1er mai, à l'occasion de la fête du 1er mai en Côte d'Ivoire, le discours du président Alassane Ouattara était très attendu. Les fonctionnaires ivoiriens menacent depuis quelques jours de déclencher une nouvelle grève générale. Et le feu couve également dans les casernes militaires. Voici un reportage de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Depuis quelques mois, le gouvernement ivoirien fait face à une grande fronde sociale. Les fonctionnaires ont observé plusieurs mouvements de grève pour exiger notamment le paiement d'arriérés de revalorisation des salaires. Quant aux soldats, ils sont descendus dans les rues de plusieurs villes du pays pour réclamer le paiement de primes. Des mouvements d'humeur qui ont secoué le pays et fragilisé le pouvoir ivoirien. Alors que les fonctionnaires menacent d'appeler à une nouvelle grève et que les militaires attendent le paiement de leurs primes, le discours de ce 1er mai du président Ouattara était très attendu.
J'ai été meurtri par la forme inédite de ces manifestations que je condamne. Les Ivoiriens et la population vivant chez nous ont été effrayés. L'administration a été bloquée et les activités économiques perturbées. Aucune revendication, quelle qu'en soit la légitimité, ne doit remettre en cause la marche de notre pays vers le développement.
Sur les revendications des fonctionnaires, notamment le paiement des arriérés et des revalorisations des salaires, le président ivoirien se donne du temps pour, dit-il, tirer tout au clair. En revanche, pas un mot sur celle des soldats qui s'étaient mutinés en janvier dernier.
Il est important que cette question soit clarifiée, que nous puissions avoir la totale clarté que les discussions donc se poursuivent entre les centrales syndicales et le gouvernement en vue de me remettre des conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale.
Le discours du président Ouattara semble avoir laissé certains dirigeants syndicaux sur leur faim. Théodore Nyanyazadi.
Nous avons un sentiment mitigé. Dans tous les cas, nous avons mené une lutte. Des choses ont été faites par l'État. Et en dernier ressort, les mesures de rétorsion qui frappaient près de 400 de nos camarades ont été levées. Pour cela, nous félicitons déjà, n'est-ce pas, le gouvernement pour avoir réagi ainsi. Mais sur la question principale, n'est-ce pas, du stock des arriérés, nous restons sur notre faim. Nous attendions aujourd'hui une reconnaissance et un chronogramme clair de paiement. Nous avons été surpris qu'actuellement, on nous dit encore qu'on veut voir clair dans cette affaire.
Les syndicalistes ivoiriens ont saisi l'occasion de cette fête du travail pour dénoncer également la cherté du coût de la vie et l'insécurité liée à des gangs d'adolescents que l'on appelle ici les microbes. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Atmosphère de fin de règne en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma a dû annuler sa participation aux célébrations de la fête du travail, les travailleurs lui ayant signifié qu'il n'était pas du tout le bienvenu. Pendant ce temps, la lutte pour sa succession s'intensifie au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomaosen de l'Institut du droit international et comparatif à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
L'opposition contre le président Zuma a monté à un niveau même de fièvre et il est un peu isolé dans le parti. Il y a presque plus de factions qui l'appuieraient ouvertement. Il a évidemment encore des clans, des cercles qui l'appuient parce qu'il s'intègre avec lui dans des intérêts économiques et des intérêts d'affaires. Mais politiquement et dans la politique de base, il a vraiment perdu beaucoup d'appui. Surtout la Grande Fédération des syndicats, la COSATU, a décidé de joindre ceux qui demandent la démission de Zuma.
C'est un sérieux revers pour le président sud-africain. Que va-t-il faire?
C'est parfois la tragédie des présidents qu'après quelques années dans le pouvoir, ils perdent le sens de la réalité et ils n'arrivent pas à comprendre que les affinités et les préférences des électeurs peuvent changer. Fondamentalement. Et pour Zuma, vraiment, c'est la fin de son pouvoir. Il est encore le président, formellement. Il peut organiser des délais pour un vote secret dans l'Assemblée nationale avec un vote de la majorité simple des députés. Il pourrait provoquer la démission de Zuma. Sauf que pour que cela arrive, il faudrait avoir un accord préalable que la votation soit secrète. Parce que les députés de l'ANC qui appuieront un vote de non-confiance en Zuma, auront un peu peur. Ils se sentiront intimidés de faire ça avec un vote ouvert.
La lutte pour la succession du président Zuma s'intensifie, avec notamment ce duel entre Cyril Ramaphosa et Nkosasana Dlamini Zuma. Comment voyez-vous cette confrontation?
Bon, il n'y aura pas de majorité ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense pouvoir dire que peut-être 35% des délégués de l'ANC pour une conférence. D'ailleurs, il y a une conférence à venir en mois de septembre. Et avant, maintenant, ce mois-ci, au moins, en mois de mai, il y aura une réunion très importante de définition politique, de réflexion politique. Je pense que la madame Dlamini Zuma, l'ancienne épouse du président Zuma, pourra rassembler peut-être 35% des délégués. Et M. Ramaphosa peut-être aussi une trentaine ou 35, peut-être 40%. Mais il n'y aura pas un front uni dans le parti pour le choix d'un nouveau président.
Eh bien, c'était le professeur André Thomaosen, joint à Pretoria, en Afrique du Sud.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Daniel Brown pour la mise en onde et Jean-Roger Pion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.